Marivaux, lui, se penchait, en tant que romancier, sur les jeunes êtres sans ressources qui réussissent par leur don de plaire et au triomphe de l'amour sur la société. Oui, il y a le Marivaux des pièces de théâtre et le Marivaux des romans. À l'arrivée, le 2 mars 1964, sur France Culture en tout cas, se jouait une conférence donnée par Béatrix Dussane, sociétaire de la Comédie française.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je n'ai évidemment pas la prétention de vous apprendre. D'abord parce que vous savez toutes les dates de l'histoire de France, bien sûr. Et ensuite, parce qu'il en a été beaucoup question pendant tous ces mois derniers, de vous apprendre, dis-je, que cette année, 1963, marque le deuxième centenaire de la mort de Marivaux. Ce que je vais me proposer d'amener devant vous, pour que nous fêtions Marivaux ensemble, c'est quelques-uns de ces personnages qui sont demeurés prisonniers aux pages de ses romans. Les romans de Marivaux sont bien sûr beaucoup moins connus que ses pièces, et c'est peut-être injuste. Ils sont pris, eux, tels quels, dans l'observation de la vie quotidienne. Marivaux les a choyés dans la liberté du rêve, n'a pas eu à les plier à de certaines conventions de la présentation scénique, à les transposer pour que les préjugés du public les admettent en scène. Et je crois que, à cause de cela, ils contribueront à rendre Marivaux encore plus proche de nous, à nous faire une espèce de deuxième centenaire tout à fait intime. Voyez-vous, à respirer le climat brillant de ces pièces que nous aimons tellement, à contempler, encore une fois, le luxe des costumes, à nous délecter avec le brillant du dialogue qui suppose, et c'est vrai d'ailleurs, qui suppose une longue pratique de la vie de salon et de la vie de salon de l'époque, nous risquons de nous tromper très lourdement sur ce qu'a été en réalité la vie de Marivaux. Il a une physionomie aimable, charmante, mais qui n'est pas exactement celle d'un jeune premier. Il a de beaux yeux, mais le nez un peu court, une grande bouche prompte au sourire, des bonnes joues, pas une physionomie riante et toute baignée de bonté. Oh ça oui, certes. On le sent, on le devine, et nous le savons d'ailleurs, prompt à s'émouvoir, à imaginer. Vous savez, il devait être de ces gens qui, pour un oui, pour un non, se mettent à rougir brusquement. C'est pas qu'ils ont honte, mais ils ont été émus de quelque chose et le sang afflue à la peau. Et prend donc à s'émouvoir, à imaginer, et évidemment à la fois riche et tourmenté d'une sensibilité subtile qui se délecte et se martyrise à la fois à des nuances infinitésimales qu'il est seul à discerner, mais qui, encore une fois, lui cause plus de peine que de plaisir. Et à cause de tout cela, eh bien, évidemment, son succès est grand dans les salons, car en outre, sa parole suit sa pensée, et vous le savez, et vous allez en avoir des exemples. Il plaît aux femmes, et il se plaît avec elles, oh mais beaucoup, mais il n'a pas tellement envie de pousser les choses plus loin. C'est qu'il a comme elle l'âme tendre, l'humeur susceptible, et pas beaucoup de goût pour l'action. Je parle des dames du XVIIIe siècle, mesdames. De nous, bien entendu, qui sommes toutes autant de Napoléon. Il plaît aux femmes, mais il ne s'aventure guère à les conquérir. Peut-être, et c'est ce qui expliquerait que dans tant de ces pièces, les héros s'attardent aux prémices de l'amour et ne semblent pas avoir tant de hâte d'en arriver à la conclusion. C'est ce cheminement, c'est cette série des mois délicats qui les délectent, et puis, le rideau tombe au dénouement, n'est-ce pas ? Ça, c'est les lois du théâtre. Mais quand même, les pièces seraient certainement autres si Marivaux lui-même avait eu une autre sensibilité. Il ne s'aventure guère à conquérir les femmes. Oui, bon, peut-être parce que son deuil conjugal l'a laissé incapable désormais d'une vraie passion, c'est possible, mais peut-être aussi pour des raisons plus humbles et qui ont dû peser beaucoup sur sa destinée et auxquelles on ne pense pas, toujours à cause du luxe de sa vie de salon. Bien sûr, chez Madame de Lambert d'abord, et puis ensuite et surtout chez Madame de Tencin, qui étaient des maîtresses de maison généreuses et délicates, qui lui ont fait sa carrière et avec toutes sortes de bons procédés, eh bien, il était de plain pied avec les autres, il était toujours mis avec soin, Et même avec une délicate recherche, il se sentait, tant que duraient les heures brillantes, des réunions, des soirées ou même des séjours à la campagne, en parfaite harmonie avec cette société aimable et opulente qu'elle réunissait chez elle et à laquelle elle produisait des gens de lettres d'esprit justement pour que cette société s'amusât. Cependant, il était sans fortune et quand se dispersaient les hôtes heureux, eh bien lui ne remontait pas dans son carrosse. Il lui fallait toujours, en fin de compte, rentrer, en fiacre probablement, mener une petite vie dans un logis étroit et prendre de petits soins de son bel habit et de ses fines dentelles pour qu'il durasse longtemps. Et il lui faut assurer l'éducation de sa fille, et je vous l'ai dit, il n'aura jamais de quoi la doter. Alors, comment dans ces conditions, et avec par ailleurs une âme délicate, il n'était pas question d'imaginer Marivaux profitant gratuitement des faveurs, et clandestinement des faveurs d'une dame par ailleurs bien rentée, comment voulez-vous dans ces conditions que Marivaux aille s'aventurer dans les hasards onéreux d'une liaison avec telle ou quelle de ses riches interlocutrices ? Il aime bien mieux recevoir les confidences, les provoquer, les écouter, en percer d'ailleurs bien souvent les menues hypocrisies et vivre ainsi. Et en 1743, c'est-à-dire déjà ayant passé la cinquantaine, eh bien, il finira au lendemain du jour où Madame de Tencin aura réussi à le faire élire contre Voltaire à l'Académie, ce qui suffit d'ailleurs à expliquer les jugements foudroyants de Voltaire sur Marivaux. Elle finira par mettre ses minces ressources en commun avec celles d'une amie obscure et dévouée, Mademoiselle de Saint-Jean, dans une manière de, comment vous dirais-je, de cordial faux ménage, modeste et sans prestige, qui tient beaucoup plus d'une amitié que d'un amour. Et il y a ainsi, et depuis toujours et jusqu'au bout, dans la vie de Marivaux, une part quotidienne ou quasi quotidienne de la vie et de l'expérience qui n'appartiennent pas à la vie mondaine, qui n'appartiennent pas au salon et au château, mais qui partagent le rythme de la ville et de ses mille petits métiers et de ses mille petites professions. Si ces pièces, par les conventions même du théâtre, sont à peu près toutes, ça se passe à peu près toutes dans cette atmosphère mondaine, ces romans, au contraire, et c'est pourquoi j'ai voulu vous en parler ici, sont nourris des rencontres, mais exclusivement et proprement citadines. Et aussi bien d'ailleurs, il voyait clair. Et il avait mesuré une fois pour toutes ce que comporte de factice la vie élégante et qui commanda en quelque sorte toute sa carrière. Il goûte et très pleinement la vérité humaine partout où il la rencontre. Les vêtements, les titres, les parchemins et les rentes ne lui font pas illusion. Et c'est ainsi qu'il dit, et c'est en exergue d'un chapitre justement de cette vie de Marianne dont je vais vous parler dans une seconde. Il y a des gens dont la vanité se mêle de tout ce qu'ils font, même de leur lecture. Donnez-leur l'histoire du cœur humain dans les grandes conditions, mais ne leur parlez pas des états médiocres. Ils ne veulent voir agir que des seigneurs, des princes ou des rois. Laissez là le reste des hommes, qu'ils vivent, mais qu'il n'en soit pas question. Il vous dirait volontiers que la nature aurait bien pu se passer de les faire naître et que les bourgeois la déshonorent. Mais ceux qui sont un peu moins dupes des distinctions que l'orgueil a mis dans les choses du monde, ces gens-là ne seront pas fâchés de voir ce que c'est que l'homme dans un cocher et ce que c'est que la femme dans une petite marchande. Un cocher, une marchande lingère, eh oui, ce sont des personnages de cette vie de Marianne que je viens de vous annoncer, le premier de ses grands romans. Et Marianne elle-même, son héroïne, oh, ne cherchez pas, c'est toujours une Sylvia, jeune, touchante et coquette. Afin qu'elle puisse se raconter en s'analysant, comme Marivaux sait le faire, elle est supposée avoir déjà 50 ans, être veuve et compter sa jeunesse par lettre à une amie. Il sait combien la charité indifférente peut être cruelle. Écoutez Marianne. Marianne vient de voir discuter devant elle par des bienfaiteurs le parti qu'on peut tirer de sa situation, où la mettra-t-on, qu'est-ce qu'on fera, pauvre enfant. Vous voyez à peu près la chose, vous voyez le climat. Et elle dit, c'est quelque chose de bien cruel que d'être abandonnée au secours de certaines gens. Qu'est-ce qu'une charité qui n'a point de pudeur avec le misérable et qui, avant de le soulager, commence par écraser son amour-propre. La belle chose qu'une vertu qui fait le désespoir de celui sur qui elle est tombée. Charité sans tendresse, il ne le supporte pas. Le cœur de Marivaux ne le supporte pas. Il a eu l'occasion d'apprécier les très bons et très délicats procédés de Madame de Lambert et de Madame de Tencin qui l'ont pensionné, mais avec délicatesse. Et alors, écoutez cela qui certainement se rapporte au souvenir de Madame de Tencin. De toutes les obligations qu'on peut avoir à une belle âme, ses tendres attentions, ses secrètes politesses de sentiment sont les plus touchantes. Le cœur qui les a pour vous ne veut point en charger votre reconnaissance. Il croit qu'il n'y a que lui qui les sait. Il vous les soustrait. Il en enterre le mérite. Et cela est adorable. Hélas, le bienfaiteur auquel le naïf chanoine confie Marianne s'appelle Monsieur de Climal, et c'est un cousin délicat et polissé, mais reconnaissable, un cousin de Tartuffe. Ses intentions couvertes sont loin d'être innocentes. Il place Marianne chez une lingère, où il lui fait bientôt parvenir un trousseau beaucoup trop raffiné pour une simple commise. Marianne n'est pas sotte, elle a beau être naïve, elle s'inquiète de ses allures faussement paternelles, mais que faire ? Elle dépend entièrement de Monsieur de Climal. Si elle se brouille avec lui, elle est sur le pavé. Alors, vêtue de ses jolis habits neufs, Marianne est allée se recueillir. Non, pas se recueillir. Bien plutôt se montrer et se comparer dans un endroit alors fort fréquenté à toute heure, à l'église. Elle a la joie non négligeable d'éclipser des paroissiennes plus riches qu'elle et la chance, au sortir de là, d'être à demi renversée par le carrosse d'un beau jeune homme qui d'ailleurs l'avait déjà remarqué dans l'église. Cheville légèrement foulée, demi-chute, le jeune homme se précipite et l'amène dans sa maison qui se trouve toute proche pour la faire soigner. Bien entendu, là, l'étincelle dont je vous parle. Le coup de foudre, n'est-ce pas ? Coup de foudre d'ailleurs assez galamment souligné par Marivaux dans le fait que la jeune Marianne est obligée de laisser dénuder son pied et le bras de sa jambe pour que le chirurgien la lui massa. Et le jeune homme est très sensible à cette... Oui, ben, les robes étaient longues dans ce cas-là. Alors, les dames avaient beaucoup d'atouts en réserve, n'est-ce pas ? Maintenant, on a toujours l'impression de jouer au bridge avec le mort. Enfin, c'est... Aimable coup de foudre mutuel, il veut la ramener à son domicile, elle ne veut pas avouer son humble condition et rentre en fiacre. Et c'est ici que se place la scène dont Marivaux parlait dans le fragment que je vous ai lu tout à l'heure, une algarade homérique entre le cocher et la lingère, parce que celle-ci lésine sur le prix de la course. Au cri menace voisin appelé en témoignage, la scène est très longue et on ne peut pas y faire de coupure, beaucoup trop longue évidemment pour la dérouler ici. Mais Marivaux a raison, on y voit l'homme dans le cocher, attendri, paternel et plaisantin avec la jeune cliente, furieux quand on le prive de son dû, éclatant alors en sarcasme et en invective. Et dans la lingère, on voit la femme regardant à l'argent, comme font ceux qui ont peine à le gagner, et même aussi quelquefois les autres, mais vaniteuse cependant de son physique avenant et de sa condition de patronne. Les églises, lieux de rencontre et de réunion tout désignés, les couvents, refuge ou piège selon les circonstances, asile ou prison déguisée, pour les filles isolées ou sans appui, tiennent une grande place dans les aventures que Marivaux ménage à sa Marianne, et donc aussi tout un menu monde dévot dont il perçoit bien finement la médiocrité. Voyez, écoutez Marianne qu'on a emmenée à une grande cérémonie où prêchait un grand prédicateur. Il faut vous rappeler aussi, mesdames et messieurs, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'université des annales et que quand des conférenciers devaient sévir ou briller, eh bien, il leur fallait monter en chaire. C'est même pour ça qu'il n'y avait pas de conférencière. Et Marianne se trouve déçue par un prédicateur trop brillant. Il y eut un sermon qui fut fort beau. Oh, je ne dis pas bon, car ce fut avec la vanité de prêcher élégamment qu'on nous prêcha la vanité des choses de ce monde. Et c'est là le vice de nombre de prédicateurs. C'est bien moins pour notre instruction qu'en faveur de leur orgueil qu'ils prêchent, de sorte que dans nos chairs, c'est presque toujours le péché qui prêche la vertu. La voici aussi déçue et plus gravement, car c'est dans son cœur, car à ce moment-là, elle a bien besoin qu'on soit compatissant pour elle, par des religieuses trop routinières. À voir ces bonnes filles, vous leur trouvez un extérieur affable et pourtant un intérieur indifférent. ce n'est que leur mine et non pas leur âme qui s'attendrit pour vous. Ce sont de belles images qui paraissent sensibles et qui n'ont que des superficies de sentiments et de bonté. Dans le même roman, nous allons voir, madame, nous allons voir paraître une femme que Marivaux a mise aussi d'ailleurs à la scène, la mère confidente, c'est-à-dire une mère qui est véritablement l'amie de ses enfants, qui entre dans le problème de leur sensibilité. Chose tellement nouvelle à l'époque, c'est Madame de Miran, la mère de Valville, le jeune soupirant de Marianne, qui est devenu fort amoureux d'elle, qui veut l'épouser. Mille difficultés, Madame de Miran est veuve, mais elle appartient à de très grandes familles, elle a beaucoup d'argent, on peut espérer une très grande situation pour le jeune Valville. Marianne est complètement inconnue et sans un sou, vous le savez. Et il y a, pendant un temps, Madame de Miran est obligée de lutter d'ailleurs contre les parents de la famille de son mari qui forment une véritable coalition contre ce mariage. Et elle finit cependant par céder en disant, et ce couplet est véritablement adorable, « Voici mon fils qui t'aime toujours, Marianne, qui me persécute, qui est toujours à mes genoux pour obtenir que je consente à ses projets. Il dit que je ferai son malheur si je m'y opposais, que c'est une inclination insurmontable, que sa destinée est de t'aimer et d'être à toi. Je me rends. Je ne saurais dans le fond condamner le choix de son cœur. Tu es estimable, et c'est assez pour un homme qui t'aime et qui est riche. Ainsi, mes enfants, aimez-vous, je vous le permets. Tout autre que mes mères que moi n'en agirait pas de même. Suivant les maximes du monde, mon fils fait une folie, et je ne suis pas sage de souffrir qu'il la fasse. Mais il y va, dit-il, du repos de sa vie. Il me faudrait un autre cœur que le mien pour résister à cette raison-là. Je songe que mon fils ne blesse point le véritable honneur. Il n'y aura dans cette occasion-ci que les hommes et leur coutume de choquer. Dieu ni la raison ne le seront pas. Qu'ils poursuivent donc, ce sont tes affaires, mon fils. Tu es d'une famille considérable, on ne connaît point celle de Marianne. L'orgueil et l'intérêt ne veulent point que tu l'épouses. Tu ne les écoutes pas, tu n'en crois que ton amour. Je ne suis à mon tour ni assez orgueilleuse, ni assez intéressée pour être inexorable. Et je n'en crois que ma bonté. Tu m'y forces par la crainte de te rendre malheureux, je serai réduite à être ton tyran. Je crois qu'il vaut mieux être ta mère. Les hommes, leurs coutumes seront choquées, l'orgueil, l'intérêt ne veulent point que tu l'épouses, tu n'en crois que ton amour, je n'en crois que ma bonté. Voilà par où et au nom de quoi Marivaux organisera doucement et obstinément l'inéluctable défaite des règles sociales devant l'amour triomphant. Car, dans le jeu de l'amour et du hasard, à la faveur du double travestissement dont ils sont réciproquement dupes, Dorante et Sylvia sont bien obligés de reconnaître l'un et l'autre qu'ils sont en train de tomber amoureux et sérieusement amoureux, lui de la suivante et elle du valet. Ce n'est pas vrai, bon, c'est très bien, mais au moment où eux en conviennent vis-à-vis d'eux-mêmes, la méprise est pour eux réelle. Et remarquez, une réplique encore qui va bien loin, quand Sylvia, dès la fin du premier acte, intriguée et touchée déjà, toujours la fameuse étincelle, par non seulement la séduction du faux bourguignon, mais ses propos, sa distinction de parole, d'esprit, s'arrête et lui dit « Mais qui donc es-tu, toi qui me parles ainsi ?» C'est Dorante qui va répondre. Mais Dorante joue le rôle de bourguignon. C'est avec sa cervelle de maître qu'il va essayer d'imaginer quel peut être le sort d'un valet et qu'il va lui répondre. Et que lui répond-il quand on lui dit « Qui donc es-tu, toi, valet, qui me parles ainsi ?» Il répond tout simplement « Le fils d'honnêtes gens qui n'étaient pas riches. » Et comme je vous le disais, Marivaux, au lieu d'achever le triomphe de l'amour par les épousades de Marianne et de Valville, ce que le théâtre eût imposé à la fin du troisième acte, eh bien, il cède aux tentations du roman, il accumule les épisodes, il redouble les péripéties, il multiplie les fascicules, tant et si bien qu'il abandonne le récit en cours de route et que celui-ci fut complété plus tard par l'infatigable Madame Riccoboni. Mais le même thème romanesque continuait de l'habiter. Ce qui l'intéressait, c'était le départ de ses romans. Après, ça le fatiguait. Ce qui l'intéressait, c'était le sort d'un jeune être totalement démuni, sans autre ressource, arrivant à Paris, sans autre ressource que son don de plaire et sa finesse d'adaptation. Et réussissant par ce don de plaire, en se heurtant toutefois à une formidable coalition sociale. C'est-à-dire toujours le triomphe de l'amour, le triomphe du cœur sur l'organisation de la société. Et il recommence, avant que la vie de Marianne soit terminée, il recommence un roman parce que c'est ça qui l'intéresse. Et cette fois, ce n'est plus une jeune fille, c'est un jeune garçon. Et c'est l'admirable paysan parvenu, le second de ses romans, qui est très supérieur à la vie de Marianne. Et demeuré d'ailleurs aussi inachevé, hélas. Mais combien plus hardi dans les circonstances et plus pittoresque dans les caractères. Comme Marianne est une Sylvia, eh bien, le reflet des personnages de la comédie italienne est encore vivant dans le paysan parvenu. Ou plutôt, le reflet de nos personnages français de l'époque était probablement beaucoup plus vif pour les spectateurs du temps dans les personnages de la comédie italienne. Et c'est un peu le jeune paysan Jacob semble un peu émaner d'abord de ces arlequins, tels que nous les voyons d'ailleurs dans le théâtre de Marivaux, tels que l'acteur Thomassin les avait rendus si vivants, arrivant de leur campagne, ne sachant rien des mœurs du grand monde, comme eux, agiles, gourmands, prompts à saisir les occasions de plaisir. Seulement voilà, Marivaux avait très directement regardé et bien vu les cousins français de nos arlequins. Et c'est finalement un savoureux champenois, bien authentifié, qui va sous sa plume se substituer au traditionnel bergamasque. Dans la pieuse maison des demoiselles Habert, ça ne va pas tout seul. La sœur aînée de mademoiselle Habert n'a pas l'humeur si accommodante qu'elle. Le directeur de conscience, M. Doussin, qui a ses habitudes dans la maison, voit tout cela d'un très mauvais œil et prévoit ce qui va se passer. Cependant, Jacob fait encore une conquête. C'est la conquête de la cuisinière majordome, devant qui cependant tout le monde tremble et à qui, formule classique, il rappelle son défunt mari. Enfin, les choses, il ne peut cependant désarmer l'hostilité de mademoiselle Habert l'aînée, ni celle du directeur de conscience. Les deux sœurs se querellent et mademoiselle Habert finit, hors d'elle, par quitter la maison, emmenant Jacob, à qui elle donne le nom de la vallée, pour le présenter bruyamment, et qui va passer d'abord pour son cousin. Elle loue un logement pour eux deux, et la propriétaire s'empresse auprès d'eux. Et vous allez voir si ce n'est pas une commère parisienne dont on trouverait encore des spécimens. Elle est propriétaire de la maison et elle loue un des appartements. C'était la veuve d'un procureur qui lui avait laissé assez abondamment de quoi vivre et qui vivait à proportion de son bien. Femme avenante, au reste, à peu près de l'âge de mademoiselle Habert, un peu commère par le babil, mais commère d'un bon esprit, qui vous prenait d'abord en amitié, qui vous ouvrait son cœur, vous comptait ses affaires, vous demandait les vôtres, et puis revenait aux siennes, et puis à vous, vous parlait de sa fille, car elle en avait une, vous apprenait qu'elle avait 18 ans, vous racontait les accidents de son bas âge, ses maladies, tombait ensuite sur le chapitre de défunt son mari, en prenait l'histoire du temps qu'il était garçon, et puis venait à leurs amours, disait ce qu'ils avaient duré, passait de là à leur mariage, ensuite au récit de la vie qu'ils avaient menée ensemble. C'était le meilleur homme du monde, très appliqué à son étude. Aussi avait-il gagné du bien par sa sagesse et par son économie. Un peu jaloux de son naturel et aussi parce qu'il m'aimait beaucoup. Oh, sujet à la gravelle, Dieu sait ce qu'il avait souffert, les soins qu'elle avait eus de lui. Enfin, il était mort bien chrétiennement. Ce qui se disait en s'essuyant les yeux, qui en effet larmoyait, à cause que la tristesse du récit le voulait, et non pas à cause de la chose même. Car de là, on allait à un accident de ménage qui demandait d'être dit en riant, et on riait. Affranchie du joug de sa sœur, mademoiselle Habert s'abandonne à sa passion et décide d'épouser Jacob malgré la disparité de leurs âges. Mais avant d'en arriver à cette heureuse conjugalité, il aura fallu livrer rude bataille contre une redoutable cabale fomentée par la sœur de mademoiselle Habert. Elle remue ciel et terre, crie au scandale, à la mésalliance, à l'immoralité, obtient de faire comparaître Jacob devant un homme très puissant qui est en mesure de brandir pour intimider Jacob la menace tout à fait vraisemblable et possible d'une lettre de cachet. Seulement voilà, il y a des femmes dans l'assemblée. Et Jacob a bien vu que cette fois encore, sa bonne mine avait produit son effet. Il puisera dans leurs yeux déjà complices et dans sa saine logique populaire le courage et l'adresse de plaider sa propre cause avec autant de hardiesse et plus d'authentique bonhomie que le fera longtemps plus tard Le Figaro de Beaumarchais. Le mariage a lieu, nouveau et singulier triomphe de l'amour, mais Jacob continuera de plaire et d'assez mal résister. Là, on sent que le personnage a échappé à Marivaux, avec son œil irrésistible, sa bonne mine très comestible, si j'ose dire. Il n'y a pas moyen, dès qu'il le met en présence d'une autre dame, allez, hop, 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 le voilà embarqué dans d'autres intrigues. Il résiste assez mal aux belles dames qu'il convoite. Nous devinons d'ailleurs au passage que Marivaux avait sans doute l'intention de le faire assez vite veuf pour faciliter les étapes de son ascension sociale. Mais le premier triomphe de l'amour acquis et consommé, il s'est lassé de lui. Il y a cependant, dans la partie du roman qu'il a écrite, il a écrit tout de même 5 parties, il y a une visite de Jacob à Versailles. On le voit déjà commençant à approcher les gens qui sont dans les affaires. Et il y a là une espèce de ministre qui s'appelle Monsieur Bonneau, et qui est lui déjà alors un parvenu, au ton encore extrêmement populaire, expéditif, qui vraiment, vraiment a déjà, c'est tout à fait curieux, à travers le protocole du Versailles d'ailleurs, d'alors, le ton, on reconnaît déjà, le ton qui sera le ton de nos Jacobins au début de la Révolution. C'est extrêmement intéressant et tout à fait pittoresque, le personnage est très savoureux. Enfin, il y en a bien d'autres. Je vous finis l'aventure de Jacob au point où Marivaux l'a laissé. Il l'a abandonné au-delà d'un piquant épisode où Jacob se sent accéder pour la première fois au vrai grand monde parce qu'un jeune seigneur à qui il a rendu un service essentiel dans une rencontre avec des malfaiteurs se prend d'amitié pour lui, le croit un élégant de même sorte que lui-même et l'introduit, alors sa grande consécration, au foyer de la Comédie française. Vous trouverez cela et bien d'autres choses encore si ce que je vous ai conté, ce que nous vous avons dit, a piqué votre curiosité et vous a incité à lire intégralement ces textes si pittoresques. Mais je voudrais, puisqu'il faut que je finisse, revenir sur ce qui, je crois, a assuré de la manière la plus solide cette vie posthume de Marivaux. Il n'y a pas de meilleur moteur de la vie que le cœur, et je crois bien que c'est aussi le cœur de Marivaux qui a fait la vigueur de sa vie posthume. C'est peut-être justement ce que lui a dicté son cœur qui nous touche le plus et avec qui nous sentons le plus proche. Je vous ai dit sa prodigalité pour plus pauvre que lui, et vous avez entendu combien ses analyses, et en toutes sortes de domaines, combien elle devait à sa faculté de sympathie. C'est en aimant qu'on peut connaître, c'est en aimant qu'on peut comprendre aussi, on peut le continuer, et c'est en aimant sans marchander. Il était prodigue de son argent peut-être, mais c'était parce qu'il était prodigue de son cœur. Il a noté quelque part, cette chose charmante, « Les âmes excessivement bonnes sont volontiers imprudentes, par excès de bonté. » Mais d'un autre côté, les âmes prudentes sont rarement bonnes. Je voudrais pour conclusion, et ça aurait pu être l'exergue, et ça aurait pu être la devise, vous ramener au théâtre de Marivaux et vous ramener à une phrase très célèbre et légitimement célèbre qui est une réplique de M. Orgon dans Le jeu de l'amour et du hasard. Et c'est celle-là, si vous voulez bien, que nous emporterons comme ça, comme une petite fleur odorante de tout le petit herbier que j'ai effeuillé devant vous. Quand Sylvia projette de demander à son père l'autorisation de se déguiser pour mieux étudier le fiancé qu'on lui destine, elle hésite et elle dit « J'ai peur d'abuser de votre bonté ». Et Orgon lui répond avec un sourire « Oh, va ma fille, abuse. Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. »
Marivaux et ses personnages, conférence donnée par Béatrix Dussane, sociétaire de la Comédie-Française, première diffusion sur France Culture, le 2 mars 1964.